Grand Angle sur Radio Orient.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Orient pour votre émission Grand Angle, avec vous Marc-Aurel Barrez. Aujourd'hui, direction le Groenland, cette immense île de l'Arctique, objet de toutes les convoitises. En janvier dernier, on se rappelle, Donald Trump avait provoqué la stupeur des alliés européens en affirmant vouloir prendre le contrôle du territoire autonome danois. Il avait évoqué la possibilité d'un recours à la force avant de revenir sur ses propos après des échanges avec le chef de l'OTAN. Des déclarations qui interrogent à la fois l'avenir du territoire groenlandais, mais aussi celui de la relation transatlantique. Pour en parler avec nous, Guillaume Ancel, écrivain et ancien officier français, fin connaisseur du dossier. Bonjour Guillaume Ancel.
Bonjour.
Pourquoi la France et le Canada ont-ils décidé d'ouvrir un consulat au Groenland et pourquoi maintenant ?
Alors, c'est clair que l'ouverture de ce consulat ne va pas connaître une activité intense. Je rappelle qu'il y a à peu près 60 000 habitants pour le Groenland, qui est en superficie et qui vaut à quatre fois la France. Donc, ce n'est pas à cause de la demande, sur place, mais très clairement à cause du symbole politique. Symbole politique parce que personne ne se préoccupait beaucoup du Groenland, en dehors du Danemark, dont c'est un territoire autonome, jusqu'à ce que Donald Trump nous fasse son coup de cher Guy en nous expliquant que, en fait, ce territoire serait à lui. Et franchement, tous les pays européens et le Canada ont pris peur devant l'impossibilité de faire entendre raison à Donald Trump, qui était prêt à faire éclater au passage l'OTAN, le club de défense très important des pays occidentaux, au cri de « mais de toute façon, j'ai décidé que le Groenland était à moi ». Pourquoi la France et le Canada ? La France, parce qu'elle veut montrer symboliquement, encore une fois, avec l'ouverture de ce consulat, qui, encore une fois, n'aura pas une activité intense, mais elle veut montrer, avec l'ouverture de ce consulat, qu'elle reconnaît l'attachement du Groenland, non seulement au royaume du Danemark, mais au peuple groenlandais. Et par conséquent, il n'y a aucun pays étranger qui n'est légitime de dire « demain, je décrète que le Groenland m'appartient, nous ne sommes plus autant des colonies, bien heureusement ». Pourquoi le Canada ? Parce que si jamais le Groenland devenait, par la force, un territoire américain, il est évident que si on regarde une carte, la pièce manquante pour Donald Trump, pour se saisir de l'intégralité de l'hémisphère nord des Amériques, c'est le Canada. Et par conséquent, il n'hésitera pas une seconde à faire la même chose pour le Canada. Donc, les Canadiens sont extrêmement sensibles au sujet du Groenland, et les Français, je dirais comme la plupart des pays européens, c'est la capacité à faire respecter le droit sur la loi du plus fort.
Emmanuel Macron a mis en garde les dirigeants de l'Union européenne contre une forme de soulagement après la fin des menaces américaines sur le Groenland. Il a parlé d'un moment Groenland. On peut dire que les récents événements sont un tournant dans l'histoire de la relation euro-atlantique ?
Oui, très clairement. Le Groenland a choqué, en fait, tous les pays alliés des États-Unis parce que le Danemark est un des membres, je dirais, les plus fidèles des États-Unis au sein de l'OTAN. Et le fait que les États-Unis traitent de cette manière le Groenland, qui encore une fois appartient au Danemark, a montré que, en fait, Donald Trump n'avait absolument aucun respect pour personne, même parmi ses alliés les plus fidèles. Et même si beaucoup de conseillers aux États-Unis ont dit à Donald Trump, mais vous vous rendez compte, le Danemark, c'est pas un pays clé, c'est pas un pays gigantesque, mais c'est vraiment un allié parmi les alliés dans le clan américain, et vous êtes en train de le traiter comme un moins que rien, lui tordre le bras pour récupérer un truc qui ne nous appartient pas. Mais on ne peut pas faire ça.
Mais les États-Unis n'ont-ils pas déjà un accès privilégié à ce territoire via l'OTAN ?
Les États-Unis ont un traité depuis 1951 qui leur permet de faire à peu près ce qu'ils veulent d'un point de vue militaire sur le territoire du Groenland, à condition d'en informer le Danemark. Ils n'ont aucune contrainte. Et d'ailleurs, ils ont eu des dizaines de bases militaires sur le Groenland. Simplement, ils ont toutes fermées les unes après les autres pour se concentrer sur une seule qui s'appelle Pitafouk, qui est au nord-est du Groenland et qui aujourd'hui compte moins de 200 militaires. Donc, si les Américains estimaient réellement qu'il y avait une menace militaire contre le Groenland, ils pourraient commencer tout simplement à renforcer cette base. Donald Trump fait un focus sur le Groenland, probablement pour sa richesse, parce qu'on pense que les sous-sols du Groenland regorgent de pétrole et de terres rares qui sont importantes pour les industriels. Mais ce sont des exploitations qui sont très difficiles à cause du climat arctique, qui fait que, en fait, les entreprises ne se pressent pas pour aller l'exploiter aujourd'hui. Mais on peut imaginer que si demain ces ressources devenaient plus difficiles d'en bénéficier, à ce moment-là, les Américains auraient un avantage concurrentiel en disant que le Groenland leur appartient.
En quoi l'île est-elle stratégique pour les puissances américaines, russes et chinoises, tant au niveau des ressources que de sa position géographique ?
Alors, il faut tempérer la situation stratégique du Groenland pour deux raisons. La première, c'est que son climat est extrêmement difficile. Par exemple, l'exploitation des ressources pétrolières du Groenland reste un défi technologique, ne serait-ce qu'à cause des icebergs qui vont racler le fond et arracher toutes les installations qu'on essaie de mettre en place. La deuxième chose, c'est que c'est un territoire immense, mais sur lequel il n'y a quasiment pas de population. 60 000 habitants, 80% des Inuits, et donc c'est l'équivalent d'une ville moyenne dans un de nos pays. Donc en fait, la vraie dimension intéressante du Groenland, c'est bien sûr sa taille et le fait qu'il forme une espèce de d'abord pour le continent américain. Et un lien avec, si on passe par le pôle Nord, avec le continent eurasiatique, c'est-à-dire en fait avec l'Empire russe. Donc c'est en cela que sa position peut sembler stratégique, mais pour le reste, le Groenland, à mon sens, n'est pas réellement un territoire stratégique et surtout, ça n'est pas un territoire qui est convoité par d'autres puissances ou plutôt qui est menacé en dehors des États-Unis parce que ni la Russie ni la Chine n'ont jamais prétendu s'emparer du Groenland. Qu'est-ce qu'ils en feraient ? Et ils risqueraient de rentrer en guerre pour avoir un terrain considérable mais inhabité et inhabitable. Donc le sujet du Groenland, c'est surtout un rapport de force en réalité entre le continent américain et le continent euro-asiatique.
Est-ce qu'on ne peut pas espérer une forme de retour à la normale après la fin de la présidence Trump, justement ?
Alors, on espère tous qu'après la présidence Trump, il n'est officiellement pas possible pour lui de se représenter, puisqu'il a déjà effectué un mandat comme président de 2017 à 2021. Mais on sait aussi que Trump est très peu respectueux des règles de la démocratie. On se souvient qu'en 2021, il avait essayé de faire un coup d'État aux États-Unis pour inverser le résultat des élections. Est-ce qu'au mid-term, où il risque de se prendre une raclée, ou deux ans après, c'est-à-dire en 2028, il essaye de se maintenir au pouvoir par la force, par exemple, malheureusement, avec Donald Trump, on ne peut rien exclure. Et on ne peut pas exclure non plus que sa suite soit assurée par un de ses proches actuels, qui sont vraiment des idéologues de l'extrême droite, je pense à Jed Evans notamment, et là, je ne suis pas sûr qu'on serait mieux loti avec Jed Evans qu'avec Donald Trump.
Une délégation de sénateurs américains, dont une élue républicaine, s'est rendue sur l'île pour, je cite, « reconstruire la confiance ». Qu'est-ce que cela dit des tensions qui entourent les projets géopolitiques du président Trump, même dans son propre camp ?
En fait, ça montre effectivement le fait qu'il y ait une délégation de sénateurs américains, y compris républicains, qui soient rendus au Groenland pour s'excuser, en fait, pour montrer qu'évidemment, ils ne voulaient pas briser le lien avec le Groenland. Ça montre que Donald Trump dirige très seul et qu'il n'a pas de coalition derrière lui. On a l'impression qu'il se comporte comme un autocrate qui décide et qui annonce sur son réseau social Truth Social ce qu'il va faire le lendemain.
Qu'en est-il de l'autonomie stratégique promue par Emmanuel Macron ? Est-elle possible face à la reconfiguration géopolitique actuelle avec différents pôles de pouvoir, la Russie, la Chine, les États-Unis ? Quelles sont les initiatives aussi qui ont été prises en ce sens ?
En fait, ce qui est problématique pour la France et pour les Européens, c'est que la France se comporte comme une grande puissance, mais elle a les moyens d'une puissance moyenne. Si elle veut constituer un véritable pôle de puissance par rapport aux empires menaçants que sont devenus la Russie de Poutine et les États-Unis de Donald Trump, cela nécessite de passer à la taille de l'Europe. Or, aujourd'hui, l'Union européenne, la seule grande organisation européenne qui rassemble 27 pays, en réalité est un club de marchands. Il ne s'occupe absolument pas de politique internationale et encore moins de défense, dans lequel il n'a même pas de légitimité, de compétences reconnues. Donc ça veut dire que si l'Europe voulait se réunir réellement pour faire front face à ces empires menaçants, il faudrait qu'elle mène en priorité une grande innovation politique qui consisterait à amorcer des États-Unis d'Europe. Peut-être pas avec tous les pays membres, sûrement pas d'ailleurs, puisqu'on a des pays comme la Hongrie de Viktor Orban qui sont complètement hostiles à tout ce qui peut gêner la Russie de Poutine. Mais même si 5 ou 6 pays à l'origine rassemblaient leurs forces, ils n'ont pas besoin de rassembler tout le reste, comme les États-Unis d'ailleurs. Je rappelle qu'aux États-Unis, les États ont une très grande autonomie sur la plupart des domaines, mais pas sur le domaine de la défense. Ça permettrait à ces pays-là d'avoir une politique internationale et une armée qui soit à la hauteur des moyens qu'ils unissent. Je vais dire simplement, prenons-le en sens inverse. Imaginons une seconde que les États-Unis, qui disposent de la première armée du monde, aient en fait 50 armées différentes parce que chaque État a décidé de faire sa propre armée. Ce ne serait pas la première armée du monde. Ce serait juste une agrégation d'armées qui se parlent à peine et qui seraient équipées différemment. Donc voilà, le sujet de l'Europe, il est là. C'est est-ce qu'on se réunit enfin pour pouvoir faire front face à ces menaces, ou est-ce qu'on continue à jouer chacun avec un petit morceau de jardin en croyant que ça constitue une forêt ?
Merci Guillaume Ancel.
Merci.
Je rappelle que vous êtes écrivain, ancien officier français et spécialiste des questions géopolitiques. Merci pour votre écoute. Très bonne suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.